Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a 60 ans, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accédait à son indépendance. L'occasion ce matin de dresser ensemble un bilan avec vos réactions, vos témoignages, vos analyses et pour dialoguer avec vous, nos deux invités, Bob Kabamba, politologue, professeur à l'Université de Liège, cofondateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et à mes côtés, Jean-Jacques Lumumba, ancien banquier devenu lanceur d'alerte et fondateur d'UNIS, le réseau panafricain de lutte contre la corruption. Je vous le disais en première partie, vous êtes extrêmement nombreux à souhaiter prendre la parole au 33 9 693 693 70. Malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais priorité évidemment à ceux qui nous appellent. Je ne pourrai pas lire de messages Facebook, WhatsApp. Il y a eu des centaines et des centaines, mais je préfère vous donner la parole, vous qui êtes sur place. Bonjour Trésor.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale congolaise, et vous souhaitez vous revenir sur Laurent Désiré Kabila.
Effectivement, Juan, nous souhaitons revenir sur Laurent Désiré Kabila. Il faudrait noter et retracer les points positifs de sa personne et puis les points négatifs de sa personne jusqu'à présent.
Mmh. Alors les points positifs pour commencer.
Le point positif de Laurent Désiré Kabila, vous allez être d'accord avec moi, qu'en 1997, il a fait son entrée dans le sens des coups d'État. En fait, il a choisi le chemin de chef de l'État, dans le sens que je n'étais pas contre de son mandatation au pouvoir. Il va arriver pour essayer de mettre hors d'état de nuire le système dictatorial de Maréchal Mobutu, son prédécesseur.
Donc pour vous, Trésor, pour vous, l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, qui met fin donc à trois décennies Mobutu, Kabila suscite l'espoir.
Kabila suscite l'espoir du peuple congolais, mais tout en enfonçant encore le peuple sur les plans sécuritaires.
Alors justement, sur cet espoir, je voudrais d'abord écouter nos invités, avoir leur réaction. Bob Kabamba, partagez-vous cette approche, cette analyse?
Oui, tout à fait, Juan. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers la fin du régime de Mobutu, le peuple congolais, l'opinion politique congolaise et même l'opinion publique congolaise était manifestement de manière très claire anti-Mobutu. Et tout devait être fait pour que Mobutu parte. N'importe qui pouvait arriver dans cet objectif-là serait applaudi et acclamé. C'est que Kabila père, donc comprenant ce discours, va avoir comme slogan, bien entendu, de pouvoir mettre fin à la dictature de Mobutu. Et il va avoir l'appui de toute la population congolaise, ce qui explique d'ailleurs, Juan, la fulgurante avancée qu'il a faite depuis Uvira jusque Kinshasa en quelques mois.
Oui, en quelques mois. Il traverse la République démocratique du Congo, qui est grand comme 5 fois et demi la France. Il traverse le pays d'est en ouest en quelques mois, soutenu par la population. Ensuite, il va reprendre un peu les travers de Mobutu. Il va vouloir concentrer tous les pouvoirs. Donc là, déception, j'imagine, Jean-Jacques Lumumba.
Bien évidemment, Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir faute de mieux, parce que tout le monde qui pouvait être l'alternative au pouvoir finissant de Mobutu était le bienvenu. Mais malheureusement, quelques années après, tout cela a été une grande désillusion pour la population, compte tenu du fait que l'origine même de son pouvoir a été des origines très désastreuses et très douteuses, compte tenu du contexte avec lequel il était arrivé au pouvoir, avec tous les soutiens qui l'ont emmené à être le président de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre.
Ouais, il sera assassiné en janvier 2001, dans sa résidence à Kinshasa. On sait qui a tiré sur Laurent Désiré Kabila, mais on ne sait toujours pas qui sont les commanditaires. Bob Kabamba, là aussi, la mort de ce dirigeant congolais reste encore un grand mystère.
Tout à fait, Juan. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire politique du Congo, toutes les morts des personnalités politiques sont toujours entourées d'un flou, et à partir de ce flou naît un mythe, et qui devient même un mythe politique, et qui peut aussi devenir une idéologie politique quelconque. Et alors, ce qui est aussi vrai, c'est qu'on n'a pas le nom des commanditaires. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs thèses qui circulent. On parle du réseau diamantaire, on parle des Américains, on parle des Rwandais, on parle. Effectivement, mais tout ça constitue maintenant ce mythe qui entoure effectivement Laurent Désiré Kabila et qui va certainement, dans les années qui viennent, j'imagine, va être la base idéologique peut-être d'un courant politique à naître dans les prochaines années ou les prochains mois.
Le successeur de Laurent Désiré Kabila sera son fils Joseph, qui à l'époque n'a aucune expérience politique. Bonjour Serge.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons sur Joseph Kabila.
Bien entendu, je suis à Kinshasa, je souhaite une bonne fête de l'indépendance à tout le peuple congolais, notamment à nos amis qui sont à l'est du pays. La gestion du président Kabila a été caractérisée par une destruction systématique du tissu social et économique. Vous êtes sans ignorer que à son arrivée en 2001, avec le concours de différents chefs militaires, la réunification de la nation congolaise, de par l'accord de San Suu a remis le pays sur les rails du développement et de la démocratie, notamment avec la constitution du 18 février. Malheureusement, la gestion du pays a pris une mauvaise tournure avec l'absence de la vie politique, une volonté commune quant à l'aboutissement de nombreux projets et lois qui avaient été déjà adoptés et qui seront par la suite taillés sur mesure pour des intérêts mesquins, mettant en arrière-plan le bien-être de la population congolaise pour un lendemain meilleur.
Donc pour vous, les 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir sont finalement de mauvaises années.
De très mauvaises années, parce que ce jour, la population est abandonnée à son triste sort. Le vouloir vivre ensemble qui caractérisait le peuple congolais de par l'unité nationale des années Zaïre n'y existe plus. Il y a des groupes armés, des incursions. Pas plus tard qu'avant-hier ou hier, il y a eu au moins 13 décès à l'est du pays. Chose que nous déplorons et que nous estimons que les choses devront s'améliorer par le concours des uns des autres, ouais, notamment par nos compagnons.
Alors, bilan négatif, à vous entendre sur le volet politique, mais aussi sécuritaire. On parlera sécurité, je l'espère, d'ici la fin de cette émission. Jean-Jacques Lubumba, pourtant, lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, qu'il remplace son père, enfin, qu'il prend la succession de son père, il y a quand même une volonté d'ouverture politique à ce moment-là.
Le contexte de la mort de son père et l'état dans lequel se trouvait le pays, déchiré par plusieurs rébellions, l'emmenait très clairement vers cette union et cette unification du pays. Et pour ça, on l'en félicite, mais malheureusement il a voulu durcir son pouvoir dès qu'il a été élu en 2006, et malheureusement les événements qui arrivent après démontrent qu'il n'a pas été très différent de la gestion de Mobutu, par sa kleptocratie, par le clientélisme, le favoritisme et surtout la promotion de la mafia politique décrit même le président Tshisekedi dans son discours hier. Donc M. Kabila a été tout sauf un exemple, mais nous saluons son arrivée qui a suscité beaucoup d'espoir, mais malheureusement, la suite ne lui a pas donné raison. Et avec cette classe politique qui est très inféodée, très infestée par des mauvaises pratiques, cela ne l'a pas sans doute aidé à bâtir un État fort.
Vous faisiez référence à l'instant au discours à la nation prononcé la nuit dernière par le président Tshisekedi. Je le cite, « Nous avons laissé notre classe politique se transformer en une sorte de mafia. » Il inclut également son prédécesseur, selon vous, Bob Kabamba?
Je pense, pour avoir suivi son discours, je pense que quand il inclut cette mafia politique, il n'épargne pas l'ancien président Kabila. Donc en parlant de mafia politique, là j'imagine qu'il englobe toute la classe politique dans son ensemble, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial. Mais il faut aussi souligner que malheureusement, c'est ça aussi un des gros problèmes qu'il y a, c'est-à-dire qu'on est toujours, Juan, dans la même continuité de ce qu'on appelle un État colonial. Alors, comme on est dans la continuité d'un État colonial, tous les dirigeants qui arrivent n'ont pas les moyens de pouvoir arriver à justement consolider cet État, à pérenniser cet État dans la façon dont il a été conçu depuis le vol 2 et la Belgique. Et toutes les difficultés que tous les présidents vont continuer à avoir, c'est comment arriver à consolider les moyens militaires pour l'aspect sécuritaire, les moyens économiques pour donner un meilleur pouvoir d'achat aux Congolais, mais aussi sur la question de l'Église, malheureusement, avec tout ce qu'on est en train de connaître. Quand je dis Église, ça veut dire l'éducation, la conscientisation, l'idéologie nationale, etc., d'un État pour la construction d'un État.
Oui.
Tous les autres dirigeants essayent, mais n'ont pas les moyens de pouvoir arriver à contrôler ces trois piliers. Et on a le délitement actuel du Congo qui se fait de semaine en semaine, de jour en jour, comme on l'a souligné tout à l'heure avec les groupes armés. Ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle sur le système sécuritaire et le problème de pillage de ressources naturelles par ces groupes armés, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le contrôle sur les moyens économiques et donc on a le délitement effectivement de l'État et qui continue.
Les richesses naturelles qui sont toujours très très convoitées, on va en parler dans un instant. On continue à feuilleter ce livre d'histoire, 60 ans d'histoire, 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Emery nous rejoint. Bonjour Emery.
Bonjour Juan et bonne fête de l'indépendance à tous mes compatriotes.
Vous souhaitiez revenir sur l'élection présidentielle de décembre 2018.
Oui, parce que pour moi, je pense qu'en 60 ans d'indépendance, c'était la première fois qui a eu une passation de pouvoir paisible. C'est une chose qu'on n'a jamais eu à connaître dans ce pays. 65, c'était un coup d'État. 97, pardon, l'arrivée de l'AFDEL avec tout ce qu'on connaît.
Mm-hmm.
Et même en 2006, lors des premières élections, il y a eu des troubles juste après le processus électoral. Donc, c'est vrai que pour en arriver là, il y a eu quand même des manifestations, malheureusement des morts qu'on a connues, mais que la situation, je veux dire globalement, puisse être une situation pacifique où les choses se passent pour l'instant, où se déroulent pour l'instant de manière assez paisible, nonobstant les soubresauts politiques qu'on a connus ces derniers temps, je pense que c'est quelque chose qui caractérise un peu ces 60 dernières années
et
devons consolider pour que justement, à chaque fois qu'il y ait ce processus électoral, qu'il se passe de la manière la plus paisible possible.
Oui, effectivement, première alternance pacifique de l'histoire de la RDC, Jean-Jacques Lubumba, mais après une élection tout de même très controversée.
Ben, je pense qu'il faut être sincère, ces élections ont tout sauf été démocratiques et transparente, et ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de cette débâcle électorale. Je crois qu'à un moment donné, toute la classe politique doit s'assumer. On parle de pacifique, mais il faut regarder les conséquences quelques mois après. Certes, nous avons un nouveau président, mais il y a l'ombre de M. Kabila qui reste là. Et à titre personnel, et selon plusieurs sources, je reste très, très sceptique de ce qui s'est passé, des élections qui se sont passées. Ce n'est pas un exemple à enseigner aux générations futures si nous voulons réellement construire un État fort.
Ouais, l'ombre de Kabila plane toujours. Vous êtes d'accord, Bob Kabamba? Je rappelle que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont ensemble créé une sorte de coalition. Enfin, pas une sorte, ils ont créé une coalition pour diriger le pays. Donc forcément, selon vous, Kabila continue, tant bien que mal, à tirer les ficelles?
Oui, pas tirer les ficelles, il continue à diriger, c'est pas tirer les ficelles, il continue à diriger, du fait simplement que le système congolais, il est fait au niveau de l'exécutif de deux têtes, une tête qui est la présidence de la République et l'autre tête qui est le gouvernement. Kabila a gagné les élections législatives, il a perdu les élections présidentielles. En gagnant les législatives, ça veut dire qu'il est majoritaire au Parlement. Et en étant majoritaire au Parlement, il peut constituer un gouvernement de sa couleur politique. Alors ici, il a voulu faire une coalition avec Félix Tshisekedi, et donc il dirige les pays à deux comme le texte constitutionnel le veut.
Donc l'alternance qui était tant voulue par les Congolais n'est finalement qu'une illusion.
C'est On va dire, oui, c'est une illusion du fait que bah, le système politique tel qu'il est, il continue. Celui qui était en 2018, il est le même que celui qui est en 2019, avec les mêmes politiques et avec même les mêmes personnes. C'est-à-dire ici, soit la présidente qui a changé, lorsque vous regardez le personnel politique qui est en place actuellement, vous allez vous rendre compte qu'une bonne partie, ce sont des personnels politiques quand même qui sont ou ont été proches de Kabila ou qui sont dans ce regroupement politique. Donc là, clairement, donc nous sommes dans une continuité et que moi j'appellerais plutôt une sorte de transition. Peut-être que d'ici 2023, il va y avoir d'autres élections. Si, bien sûr, ces élections sont organisées dans des meilleures conditions, on pourrait véritablement avoir aussi un changement, puisque vous savez très bien que lorsqu'on additionne les voix obtenues par tous les candidats en 2018, on se rend bien compte qu'il y a toujours 80% des Congolais qui n'ont pas voulu du successeur de Kabila au pouvoir. Or, si le système ne change pas, ça veut dire que 80% des Congolais vont continuer à voter pour l'opposition contre le pouvoir. Et là-dedans, ça veut dire que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mouzito et Fayoulou, ben, s'ils restent dans l'opposition, fatalement, d'ici peut-être 2023, s'il y a des élections crédibles, on ne sera pas étonné d'avoir des résultats qui ne sont pas ceux espérés par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui.
Voilà pour les projections de Bob Kabamba. D'ici la présidentielle de 2023, on aura largement l'occasion d'y revenir. On parlait il y a quelques instants des ressources, des richesses, de la richesse du sous-sol congolais. Bonjour Patrick.
Bonjour Anne et bonjour à tous.
Vous êtes à Kolwezi, on vous écoute.
Effectivement, je suis à Kolwezi, dans la province du Lualaba.
Allez-y.
Ok, merci beaucoup de nous accorder la parole. Je crois que la situation qui traverse aujourd'hui notre pays, aujourd'hui, 60 ans, nous sommes en train de célébrer, je crois que ça doit être une journée de réflexion, de profondes réflexions, ainsi qu'une journée de repentance, parce que si vous regardez depuis 1960 jusqu'à ce jour, la gestion de notre pays reste toujours chaotique. Je suis dans une province minière, la province de Lualaba, la ville de Kolwezi. Et c'est une ville qu'on qualifie aujourd'hui, une ville pilote, tout ça, tout ce que vous voulez, mais la richesse de cette province, la richesse de cette ville ne profite pas à la population congolaise. C'est juste une poignée d'individus, un groupe d'individus, ceux qui ont apporté leurs capitaux, notamment les Chinois, les Occidentaux et consorts. Et une poignée d'acteurs politiques qui profitent de ces ressources. Ouais. Mais la population continue à croupir dans la misère. Je crois que cette journée doit interpeller les uns et les autres pour essayer de repenser la politique économique, revoir la situation pour que la richesse de notre pays puisse profiter à la population, éradiquer la corruption, éradiquer la guerre, pour que les Congolais puissent profiter de ces richesses.
Oui, des richesses toujours convoitées par les multinationales, mais aussi, vous parliez de guerre par des groupes armés. Bob Kabamba, on va terminer avec cet auditeur, malheureusement il ne nous reste plus que 2 minutes, à entendre Patrick. Sous les colons, c'était une évidence à l'époque de Léopold II, mais depuis, on va dire, 200 ans, finalement, jamais la population congolaise n'a pu profiter de cette richesse.
La population congolaise, malheureusement, ne profitera pas de cette richesse tant que l'on sera dans un système d'extraversion. Le Congo a été le coffre-fort de Léopold II du marché mondial aussi bien des minerais que d'autres matières rares. Et ce processus ne s'est jamais arrêté. Ce processus continue jusqu'à aujourd'hui. Alors là, il se transforme en plusieurs catégories. On a ce qu'on pourrait appeler la catégorie classique, qui est un pillage classique, pour alimenter le marché mondial et dans lequel les Chinois jouent aujourd'hui un rôle prépondérant. De l'autre côté, du côté de l'Est, vous avez maintenant des groupes armés qui sont toujours dans la même logique, qui contrôlent des mines, qui contrôlent par exemple des mines de coltan, qui extraient du coltan, qui les traitent et qui aussi alimentent le marché mondial par les pays voisins, mais en retour, ils achètent des armes pour continuer le même système.
Donc c'est le cercle vicieux, effectivement. Jean-Jacques Lumumba, en 30 secondes.
Je pense que la responsabilité aujourd'hui incombe à la population et au peuple congolais. tous les acteurs que nous avons cités ont pratiquement échoué, mais le rôle du peuple actuellement est capital. Et je dirais au peuple congolais que tout ne décollera que si ce peuple prend réellement sa responsabilité, et c'est au peuple de sortir le pays dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui.
Merci à tous les deux, Jean-Jacques Lobumba, Bob Kabamba, merci d'avoir pris le temps de dialoguer avec les auditeurs de RFI. N'oubliez pas, émission spéciale, débat africain à l'Infoca, tout à l'heure à 19h10, heure de Paris, consacrée au 60 ans de l'indépendance de la RDC.